Je ne pouvais pas partir comme aujourd'hui en autonomie alimentaire. Ça ne se faisait pas. C'était pas comme ça. C'est arrivé le soir et t'avais le gîte et le couvert. Donc si tu te perdais, t'avais rien.
L'aventurier du jour, c'est Willy. Il a réalisé en décembre 2024 une expérience anthropologique et historique assez particulière, faut bien le dire. Traverser le Gévaudan et le Languedoc en plein hiver sur les 270 km d'une trace historique et dans des conditions proches de celles du XIIIe siècle. Sa question, c'était comment voyageait-on au Moyen-Âge ? Et je crois qu'il a trouvé la réponse.
La Fabrique Audio et TV5 Monde présentent
Les Aventuriers.
Les Aventuriers, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site Voyage de TV5 Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts ou pour devenir sponsor des aventuriers, lafabriqueaudio.com.
Salut Willy.
Salut Florent, ça va ?
Ouais, ça va bien et toi ?
Oui, très bien, merci.
Bon, ça y est, cette aventure, elle est derrière toi, mais tu reviens avec tous tes souvenirs. Une aventure qui a duré combien de temps ?
Je suis parti 16 jours exactement sur le terrain.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie à la base de parcourir ces 270 km sur cette trace historique et surtout dans des conditions du XIIIe siècle ?
Oui, c'est assez particulier. Je t'avoue que ça sort complètement du paysage des autres expéditions que j'ai menées, qui étaient, on va dire, plus traditionnelles, traversée de désert, alpinisme, des choses comme ça. Eh bien là, figure-toi que ça remonte à très loin, puisque en fait, jusqu'à mon année du baccalauréat, je voulais devenir égyptologue. Ça, c'était quelque chose qui me passionnait, l'histoire, tu vois. Et à bien y regarder, plus que de vouloir devenir égyptologue, je crois que je voulais être Indiana Jones. C'est tout bête. Et donc, cette aventure, mêlant aventure et histoire. Et puis bon, quand j'ai appris que finalement, j'avais passé 98% de mon temps derrière des livres, plutôt que d'être sur le terrain, je me suis dit non, moi, il me faut de l'action. Et donc, je suis parti sur une carrière sportive et sur l'aventure en parallèle. Mais donc, c'est resté longtemps un peu en moi, cette idée de refaire quelque chose d'historique et en même temps de mêler aventure. Et puis, c'est ressurgi quand j'ai eu ma fille il y a 5 ans. Quand elle est née, du coup, les nuits étaient courtes. Et pendant les nuits, du coup, sur ma liseuse, je lisais des livres d'histoire, et des thèses, des médiévales, etc. Et je me suis dit, tiens, mais voilà, je vais répondre à cette question qui me trotte dans la tête depuis que je lis Le Seigneur des Anneaux ou autre, à savoir, mais... Ok, on enviait les personnages du Moyen-Âge, les chevaliers, etc. Gamins, on y pense tous, mais comment vivaient-ils vraiment ? Voilà.
Alors, est-ce qu'on voyageait beaucoup au Moyen-Âge ? Est-ce que tes recherches t'ont permis d'avoir une réponse ?
Globalement, la population en elle-même voyageait extrêmement peu. Figure-toi que seulement 2% des paysans dépassaient les 30 km dans leur vie. Et on va dire même 10% des gens de métier. Toi, c'était quasiment personne ne dépassait les 30 km et on va même dire les 15, puisque 15 km, c'est une distance qui correspond à un aller-retour dans la journée. Tu vois, tu peux te permettre 30 km sur la journée et après, tu es obligé de découcher. Donc, en fait, les gens connaissaient extrêmement bien leur environnement proche, les 15 km autour de chez eux, mais dépasser cette distance, c'était l'inconnu. Totalement.
Et alors, qui étaient celles et ceux qui voyageaient au-delà de ces 15 kilomètres ?
Alors, évidemment, il y avait quand même des voyageurs. Je vais te parler en tout premier du pèlerin, parce qu'il y avait énormément de pèlerins, notamment on parle de cette époque féodale, hein, 12e, 13e siècle. Il y avait énormément de pèlerins sur les routes pour aller en direction de Jérusalem, Rome, ou bien sûr Compostelle. Mais pas que. Il y avait bien entendu les soldats, il y avait... Les marchands, parce que les foires explosaient au Moyen-Âge, donc les marchands accouraient de partout, de toute l'Europe, voire du monde. Et puis, tu avais aussi des étudiants, parce que figure-toi que les universités sont nées en 1245, par exemple, je crois l'Université de Paris, c'est 1245 qu'elle est née. Et donc, il y a eu un mouvement migratoire, il y a eu un flux, en tout cas, au niveau de l'Europe, qui a été assez dense, en tout cas, exclusif, mais dense.
Et quand on partait comme ça en vadrouille sur bien plus que 15 km, on partait avec quoi ? Évidemment, la tente Quechua n'existait pas à l'époque.
Non. En revanche, si tu veux un comparatif, on va dire que c'était plutôt des mules MULC, c'est la marche ultra légère. Ouais. Un peu ce concept qui est à la mode de partir en étant très léger. Eh bien là, c'était pareil, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tente, pas de duvet, pas de sac de couchage, pas de boussole, rien du tout. C'est-à-dire que pour eux, l'étape du soir dans un hébergement était un impératif.
On avait peur sur les routes ?
On avait tellement peur qu'en fait, on demandait aux pèlerins, avant de partir, de signer un testament.
Ah oui.
Les gens préféraient voyager par voie de mer que par voie de terre. Tellement c'était... Le retour était aléatoire. Quand tu partais sur une longue distance, entre les maladies, mais on parlera probablement des dangers un peu plus précisément après, mais il y avait un vrai danger de mort de partir sur le chemin.
Le danger de mort était dû plutôt à l'homme ou à la nature ? À la nature, j'entends parler les animaux.
Ben écoute, les deux finalement. Alors les hommes, c'est certain, puisqu'il y avait les attaques de brigands, c'était pas une légende, puisque tu vois, sur mon parcours, pile au XIIIe siècle, on sait que sur le roc de Campuels, dans l'Aubrac, il y avait des brigands qui campaient sur une butte et qui en fait attaquaient les pèlerins et les marchands, mais surtout les pèlerins. Donc les attaques de brigands, ça c'était certain. Tu pouvais te faire dépouiller, mais bien entendu tuer. Il y avait aussi, du coup, les loups. Ça, c'était un risque qui était majeur, même si on pourrait trouver ça assez curieux. C'était quelque chose qui était très significatif. Et puis, il y avait bien entendu les maladies, mais il y avait aussi les risques de noyade, parce qu'avant le XIVe siècle, il y avait très peu de ponts quand même. C'était des ponts en bois qui étaient vite brisés par les crues. Et donc, construire un pont, ça coûtait cher. C'est pour ça qu'il y avait un péage quand tu passais un pont. Mais du coup, il y avait le risque de noyade aussi qui était certain.
On se baladait avec quel type d'armes éventuellement pour se défendre ? C'était quoi ? C'était des gros canifs, des poignards, des épées ? C'était quoi ?
Alors pour le voyageur classique, sans parler bien entendu du soldat, tu avais le couteau d'usage, on va dire, celui qui te permet de manger, enfin vraiment le couteau d'usage. Mais plus que cela, la vraie arme de défense, c'était le bourdon, le bâton du pèlerin, le bâton du voyageur. Pourquoi ? Parce qu'il avait, deux éléments. Il avait sa pointe en acier. Et figure-toi, par exemple, que le bourdon que j'ai fabriqué pour partir sur le terrain, je l'ai fabriqué en fonction de sources archéologiques, notamment qui ont été retrouvées dans une tombe d'un pèlerin du XIIIe siècle en 2017 à Sainte-Livrade-sur-Lot. Et j'ai fait refaire par une forge exactement la pointe en métal du bourdon qui avait été retrouvé. Et figure-toi que la pointe, quand tu la reçois par courrier, tu dis « Waouh, c'est sacrément balèze, ça fait presque 20 cm alors que tu rentres dans le bois. » Mais tu vois que c'est une vraie arme d'estoc. Donc c'était pour se défendre contre les brigands, les loups, mais c'était vraiment pour percer. Et puis à l'autre bout, tu avais la fameuse boule qui permettait de se reposer en mettant les mains dessus, mais c'était aussi une arme contendante, ce qui permettait d'assommer. Voilà.
Quand on partait pour plusieurs semaines, voire pour plusieurs mois, évidemment, il fallait partir avec une certaine quantité d'argent, pas de banque sur le chemin. Les gens partaient avec quelle quantité en termes d'argent et de petites monnaies ?
Ça, figure-toi que sur les chemins, si on parle des pèlerins en l'occurrence, on sait qu'il y avait toutes les catégories socio-professionnelles de l'époque qui étaient sur les chemins. Tu avais des mendiants, mais tu avais aussi des nobles. Et donc, tu avais un peu toutes les bourses qui traînaient, tu vois. Et donc, il y en a qui vivaient vraiment de la mendicité, qui n'avaient vraiment rien, qui comptaient sur l'hospitalité, la charité chrétienne, pour pouvoir survivre le long du chemin. Et puis, il y a ceux qui avaient évidemment beaucoup plus de prétentions et d'ambitions en termes d'hébergement. Et c'était fin du XIIIe siècle, tu avais vraiment le développement des auberges. Donc, tu avais la part, on va dire, un peu capitalisme de l'accueil. Hein, qui commençait à se développer. Et donc, il y en a qui partaient avec une sacrée somme sur eux tout de même.
À quoi ressemblait l'intérieur d'une auberge ? Quand on rentrait dans une auberge, c'était quoi l'ambiance ? Est-ce que c'était comme dans les films et les séries ?
C'était, il faut l'imaginer, moins... tout aussi bruyante, tout aussi vivante, mais en tout cas, beaucoup plus épurée. À l'époque, il y avait quand même... très peu de mobilier, c'était réduit vraiment à l'essentiel. Mais en tout cas, de ce que l'on en sait, c'est que les plats étaient assez communs, à part à partir du 14e, où on a commencé à voir vraiment se développer, on va dire, les recettes de cuisine dignes de ce nom. Mais même si on y mangeait bien, hein, mais l'accueil était quand même assez sommaire. Et souvent, tu dormais à deux par lit. Hein. C'était ça qui t'attendait si tu dormais à l'auberge.
On mangeait quel type de plat? J'imagine que c'était des plats assez roboratifs.
Alors, on n'avait pas encore découvert les États-Unis. Donc, il y avait tout un tas de légumes qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas la pomme de terre, il n'y avait pas la tomate, il n'y avait pas les haricots verts. Voilà, il n'y avait pas les courgettes. Et aujourd'hui, tu te dis, tu sais, sur les plats typiques, mais je pense que belges et français, c'est pareil. Sur les plats typiques, tu l'imagines difficilement sans pommes de terre maintenant, tu vois. Et alors qu'en fait, bah, il n'y en avait pas à l'époque. Ouais. Donc, tu avais beaucoup de panais, tu avais beaucoup de fèves, de lentilles, de pois chiches. Voilà, c'était. Et puis, évidemment, tout ce qui est toute la famille des choux. Toute la famille des carottes, des navets, tout ce qui était racines et les choux, ça, tu en avais beaucoup.
Aujourd'hui, si je fais le GR20 de Corse, évidemment, je vais croiser pas mal de promeneurs. Mais si je suis sur une autre randonnée, il m'arrive de ne croiser personne pendant une rando de 2-3 heures. Est-ce qu'à l'époque, on croisait beaucoup de monde sur ces routes?
Il y avait finalement assez peu de chemin, de possibilités de chemin pour naviguer entre des villages. Donc, tu avais vraiment, on va dire, un chemin unique, qui était soit le chemin de dry, c'est-à-dire de transhumance, soit qui étaient souvent les mêmes que les chemins de commerce. Et donc, ceux qui empruntaient les chemins utilisaient souvent cela. Donc, tu voyais quand même du monde, et notamment sur la période du printemps-été, parce que c'est là où c'était les temps forts des pèlerinages, notamment, bien entendu, pour des conditions météo. Et là, l'idée même, c'était de se joindre à d'autres pèlerins, parce qu'à plusieurs, on est plus fort. Donc souvent, tu ne voyageais pas seul. C'était même recommandé de ne pas voyager seul. Et tu avais cette possibilité. Toutefois, dès que tu sortais de cette saisonnalité, dès que tu passais principalement en hiver, là, ça devenait beaucoup plus difficile. Là, tu avais la possibilité de te retrouver seul.
Tu as donc choisi, toi, Willy, de faire le chemin de pèlerinage de Saint-Guilhem-le-Désert. Saint-Guilhem-le-Désert, c'est pas très loin de Montpellier, si ma mémoire est bonne.
Tout à fait.
Pourquoi avoir choisi ce chemin de pèlerinage et à l'époque, qu'est-ce qu'il représentait, ce chemin de pèlerinage?
Ce chemin de pèlerinage, il était un peu comme une entorse, un parallèle déjà un peu au chemin de Saint-Jacques de Compostelle, puisqu'il y a un morceau de la vraie croix de Jésus qui se trouve à Saint-Guilhem. Et donc, les pèlerins faisaient du coup ce détour pour aller se recueillir sur les reliques de Guillaume d'Orange qui était là-bas et sur le morceau de la vraie croix, évidemment, pour essayer de demander des miracles, pour laver leurs péchés, etc. Donc, c'était cette destination avait ce but-là. Et du coup, elle était assez réputée quand même jusqu'au XVe siècle.
Alors, Saint-Guilhem-le-Désert, pour celles et ceux qui n'y sont pas encore allés, c'est un superbe village médiéval. Effectivement, on ressent l'aspect historique du village, hein, dès qu'on y est à l'intérieur.
Oui, il fait partie, il a le label des plus beaux villages de France, et c'est pas démérité, c'est très très beau, ça c'est vrai. Et en effet, il y a cette empreinte médiévale qui est très très forte, notamment parce que l'abbaye de Gélonne, cette abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert, a eu des modifications architecturales spécifiques au XIIe, XIIIe siècle, pour l'accueil des pèlerins notamment. Et donc c'est extrêmement intéressant de ce niveau-là. Il y a un cloître qui est magnifique. Et d'ailleurs, malheureusement, le reste du cloître qui a été détruit se trouve, figure-toi, je crois, à un fameux musée de New York.
Tu as donc traversé le Gévaudan et le Languedoc en plein hiver. Tu as parcouru 270 km de ce tracé historique dans des conditions qui étaient proches de celles du XIIIe siècle sur ce chemin de pèlerinage. Du coup, tu es parti avec quel type, toi, d'objets, de vêtements, de chaussures également? Comment est-ce que tu es parti?
Alors, je me suis appuyé sur les travaux de Tina Anderlini, qui est un peu la spécialiste française des tenues du XIIIe siècle, qui est docteur en histoire médiévale. Et grâce à des artisans aussi, on a reconstitué cet équipement archéocompatible. Donc, il y avait, pour le faire très court, les dessous, le caleçon et la chemise, c'est en lin. Et par-dessus, après, tu n'as que de la laine. Donc, le pantalon, en l'occurrence, ce sont plutôt des guêpières, enfin des collants, on va dire, des collants en laine qu'on appelle les chausses. Par-dessus ça, tu as une tunique qui descend jusqu'à mi-cuisse, qui est en laine aussi. Et puis, tu as encore, par-dessus, tu as le manteau qu'on appelle la chape de pluie, qui est un manteau extrêmement intéressant au niveau de la découpe, au niveau des manches qui sont ouverte, tu sais, les vestes type Gore-Tex, tu as cette possibilité d'ouvrir sous les aisselles pour aérer ta veste.
Ouais.
Eh bien, figure-toi qu'à l'époque, ça existait déjà. Tu avais ce manteau de laine qui était ouvert au niveau des aisselles et ça te permettait d'une, d'aérer, mais notamment de sortir les bras pour manipuler les objets, etc., ou d'avoir moins chaud. Donc, il y avait cette chape de pluie. Et puis, il y avait, bien entendu, le grand chapeau de pèlerin à large bord, typique, en laine feutrée. Et moi, j'avais pris une cape. Alors, Tina Anderlini, la chercheuse, m'avait dit « Je te déconseille la cape, c'est encombrant, etc. » Eh bien, figure-toi que j'ai pris le parti de l'essayer et je ne regrette pas. Je trouve que ça faisait partie des atouts du voyageur pour de multiples raisons. Mais ça a été vraiment, vraiment, pour moi, un accessoire indispensable. Et au niveau des pieds, j'avais donc des bottines en cuir qui, sur des modèles qui étaient faits de 1275. Et là, la singularité de l'approche, c'est que toutes celles et ceux qui auparavant ont déjà fait des tests d'histoire vivante, c'est-à-dire de s'habiller et de marcher en conditions réelles, utilisaient tous des chaussons de cuir, comme je l'ai fait, mais n'utilisaient pas les socs. Et les socs, ce sont les sabots médiévaux. On sait qu'il y avait une utilisation courante dès qu'il s'agissait de se protéger du froid, de l'humidité. Les socs étaient souvent utilisés, mais personne n'a vraiment fait d'itinérance avec les socs. Et c'était le but de cette expérience, c'était de dire, est-ce que c'était possible d'avoir une itinérance avec ce type de sabots? Quelle était leur utilité, leur durée de vie, etc. Voilà.
Les gens que tu as croisés sur ton chemin ont dû quand même te regarder d'une manière un peu interrogative.
Oui, pas qu'à peu. Même si on est un peu sur une diagonale du vide, ouais. C'est-à-dire que ce sentier emprunte très honnêtement des zones qui sont très peu peuplées. Et quand, en plus, tu es en hiver, pour être honnête, je crois que j'ai rencontré en tout et pour tout peut-être 6 personnes vraiment avec qui j'ai discuté sur 270 kilomètres. C'était très, très vide. Quoi qu'il en soit, il y a eu une rencontre un peu rigolote. C'était sur Nasbinal, on va dire le gros village de l'Aubrac. Et je traverse le village et le tenancier du bar qui me voit traverser sort au moment où il me voit traverser. Il me dit « Hey, viens boire un coup !» Et évidemment que c'était un peu pour faire un dîner de con, on va être franc, c'est-à-dire se dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces hurluberlus, tu vois ? Encore un fou qui est sorti d'asile, et il faut à tout prix que je le présente à tout le monde. » Donc oui, c'est certain que ça interrogeait les gens, ça c'est clair.
Il n'y a pas de lumière à l'époque, pas de lampe torche. On fait en sorte d'arrêter la rando du jour avant la nuit ?
Tout à fait, c'est un impératif. T'as pas de lampe frontale, c'est tout bête, mais c'est quelque chose, le fait de pas avoir de lampe. Alors moi, j'avais mon briquet médiéval, y a pas de souci, mais entre avoir un briquet médiéval et allumer son feu, il se passe un certain temps, tu l'allumes pas en 2 minutes. Ouais. Donc il y avait une anticipation déjà, toujours une anticipation de l'étape, et puis il y avait cette nécessité d'arriver quelque part. Voilà, ça c'était vraiment quelque chose qui était fortement à l'esprit du voyageur. Il n'envisageait pas, encore plus en hiver, de dormir dehors.
Alors pardon, mais je ne savais pas qu'à l'époque médiévale, on avait des briquets. C'est quoi un briquet du Moyen-Âge ?
Un briquet du Moyen-Âge, il faut imaginer une sorte de petite boucle en fer, chargée, très chargée en carbone, et qui, quand tu la frottes violemment contre un morceau de silex, ça crée des éclats. Exactement, tu sais, comme les barres de ferrocérium qu'on peut acheter pour les outils de survie, tu sais, ces petits kits de démarrage, là, et ben c'est exactement le même système, c'est-à-dire tu frottes ça contre ton silex, ça reste quand même très primaire, et puis... Sur un peu d'amadou ou un allume-feu, voilà, tu vas essayer d'allumer une braise pour après faire partir ton feu. Donc on le fait pas comme ça quand même.
Il n'y a pas d'auberge comme à l'époque sur ton chemin. Là, tu as dormi où et tu as mangé où ?
Jusqu'à la fin du XIIIe siècle, ce qui prédominait quand même, c'était les monastères, les hôtels-dieu et les hospices. Et donc, c'était la charité chrétienne, c'est-à-dire que tu avais le droit à une nuit, le gîte et le couvert. Mais tu n'avais pas droit à 2 nuits, à part si tu étais blessé ou si tu avais un équipement qui était défectueux. Mais sinon, en revanche, c'était une seule nuit, tu avais le droit à une seule nuit. Mais tu en avais à peu près partout et tu avais le droit, du coup, à ces hébergements-là. Au pire, tu avais quand même la possibilité de dormir chez l'habitant. Alors, il y en a qui pouvaient te faire payer, mais en général, tu avais cette charité chrétienne qui te permettait, si tu cherchais vraiment la mendicité, à pouvoir être hébergé gratuitement. Moi, pour reconstituer ces éléments-là, eh bien, en fait, sur tout mon parcours, j'ai contacté les mairies, les diocèses, les paroisses, pour avoir les autorisations de dormir dans ce qui ressemble plus à des hôtels-dieux des monastères de l'époque. Ce sont évidemment les églises et les chapelles.
On a déjà fait quelques jours à pied, nous arrivons ensemble sur le plateau de l'Aubrac, et là les conditions climatiques sont plus que difficiles.
Oui, là on est, je me réveille le matin, il fait moins 7, moins 6 degrés, et la logistique, parce que j'avais un soutien logistique pour toute ma nourriture et l'hébergement, avait noté des rafales de vent à 77 km/h.
Ouais. Rudesse de l'hiver donc, et un plateau surtout qui est désertique, donc rien pour te protéger finalement.
Non, tu te prends les rafales de plein pied, tu te prends l'humidité de l'Aubrac, le vent, la moiteur du brouillard. Je voulais un territoire, une trace, tu vois, qui puisse être intemporel, c'est-à-dire où il y a le moins de marqueurs contemporains, vois-tu. Et ce plateau de l'Aubrac, pour ça, c'est génial. Là, j'ai fait un bond de 750 ans en arrière. J'avais l'impression que au Moyen-Âge, c'était exactement pareil. Il pouvait endurer les conditions hivernales de la même façon.
On parlait tout à l'heure des sabots médiévaux, les fameuses socques que tu évoquais. Est-ce qu'elles ont tenu le coup pendant tout ce périple, ou est-ce qu'à un moment donné, il a fallu les changer ou les réparer ?
Eh bien, écoute, ça a été la grande surprise. Le fabricant m'avait dit je pense qu'elles pourront tenir les 300 km que tu comptes faire. Il me dit, je ne suis pas sûr, mais je pense. Et figure-toi qu'en fait, au bout de 2 jours et demi, elles étaient déjà presque totalement bouffées, le bois était bouffé. Pourtant, il y avait du chêne, hein, tu vois. Mais en 50 km, bah, en fait, malheureusement, ça commençait à être un peu catastrophique. Et au matin du quatrième jour, c'était plus possible. On a été obligé du coup de scier les cales qui étaient à moitié bouffées, d'en reconstituer avec des morceaux de bois. Ça a été la très grosse surprise. C'est le bois, en fait, est bouffé à une vitesse incroyable.
Quand tu dis « on », c'est qu'il y avait quand même avec toi une équipe logistique qui pouvait se rapprocher de toi quand il y avait des problèmes.
Oui, notamment pour moi, ce qui était important, c'est que dans cette reconstitution, je ne pouvais pas partir comme aujourd'hui en autonomie alimentaire. Ça ne se faisait pas, c'était pas comme ça. C'est arrivé le soir et t'avais le gîte et le couvert. Donc si tu te perdais, t'avais rien. Et donc, moi j'avais un camping-car qui me suivait, avec donc mon lit, sur lequel qui est une sorte de grosse housse de lin qui était bourrée de paille, et que je mettais du coup dans la chapelle ou l'église le soir venu. Et il y avait aussi mes bocaux de recettes médiévales qui m'attendaient, qui me permettaient de manger matin, midi et soir à la mode médiévale. Et donc c'est eux qui, pendant mon absence, se sont débrouillés pour essayer de voir avec des menuiseries, voilà, récupérer du bois, etc., pour pouvoir réparer ces fameuses socles.
Les jours ont passé et là nous arrivons à un moment de ton périple où tu te retrouves seul, et je crois que ça te fait du bien d'être seul dans ce pèlerinage.
Oui, ce qui peut être un peu contraignant quand on est en expédition et sur lequel on essaye de travailler sur des supports de transmission, donc que ce soit des documentaires ou là un photo-reportage, c'est que du coup, tu as des équipes qui te suivent, qui tournent, etc. Et c'est, voilà, malheureusement, ça t'ancre un peu trop au 21e siècle, et moi j'avais ce besoin de me retrouver seul pour faire complètement mon voyage temporel, et c'est tout bête aussi, mais de faire ce travail d'exploration anthropologique que j'avais entrepris.
Parce qu'effectivement, il y a cette idée d'en faire quelque chose, donc un photoreportage, mais il y a aussi l'idée de vivre ça pleinement. Donc c'est presque des fois, ça va presque des fois dans un chemin différent.
Totalement. Encore plus là pour cette aventure qui est une reconstitution historique. Il y avait un fossé immense. Mais du coup, j'avais cette jouissance subite, on va dire, dès lors qu'ils étaient partis et que je partais seul. Je savais que j'allais être seul sur le chemin, sur la journée. C'était un plaisir immense que de se retrouver seul au milieu de la nature. Comme je te disais, en plus, une diagonale du vide où tu croises presque personne. Tu es un peu seul avec ta nature. Et là, tu es bien. Et tu peux faire tranquillement ton voyage un peu schizophrénique dans la peau de Guillaume Coutel. C'est le personnage que j'incarnais. Et voilà, ça, c'est, ces moments de solitude ont été absolument nécessaires pour finaliser complètement mon voyage et mon expérience.
On arrive aux gorges du Tarn et le Tarn n'est pas forcément réputé toujours pour son grand soleil. Et là, effectivement, on va se taper 3 jours sans soleil quand même. Hein.
Oui, et j'avais pris le parti historiquement de passer par le fond des gorges du Tarn parce que à l'époque, il y avait 3 châteaux du XIIIe siècle et au niveau de l'hébergement, je considérais que c'était, il y avait tout un intérêt et puis la vie était plus riche au fond des gorges, là où il y a la rivière, l'eau, les poissons, etc., que plutôt que sur le Causse qui est très difficile. Donc j'ai pris le parti de partir au fond des gorges, mais là j'étais sur le mauvais versant et pendant 3 jours, en effet, je suis sur un versant qui est orienté plein ouest et c'est un versant qui ne voit pas le jour pendant 4 mois de l'année durant l'hiver.
Donc très humide.
Extrêmement humide, ouais. Complètement chargé de brume le matin, et donc tu n'as aucun rayon du soleil, tu es constamment à l'ombre pendant 3 jours avec cette moiteur, ce froid qui te pénètre à travers les couches de laine. C'était il y avait une atmosphère assez dark, assez sombre, mais qui était en même temps qui venait un peu, tu sais, apporter du mysticisme à cette période médiévale.
La partie la plus belle du parcours arrive, on est sur les balcons de la Jonte.
Les balcons de la Jonte, il faut imaginer, c'est donc sur les gorges de la Jonte, je viens de finir 3 jours difficiles dans ce froid et cette absence de lumière, et là tu prends une gifle face à la beauté de ces gorges de la Jonte. Ce sont des rochers ruiniformes calcaires qui ont été sculptés par le vent et la pluie. Tu as des sortes de des rochers immenses comme des vaisseaux amiraux, comme un vaisseau amiral qui perce la forêt de pins et qui vient de ce blanc et de ce gris calcaire pourfendre un peu les forêts de pins. Et c'est magnifique, magnifique, magnifique. C'est vraiment un site honnêtement vraiment majeur, et à ce moment-là, cet émerveillement te fait prendre conscience qu'à l'époque, le pèlerin qui n'avait pas quitté ses 15 ou ses 30 kilomètres prenait une gifle monumentale.
Tout à l'heure, on disait que les 3 grands dangers quand on était pèlerin à l'époque, c'était la maladie qu'on pouvait approcher sur les chemins et lors de certaines rencontres. Également, l'humain qui pouvait nous dépouiller, hein, il y avait pas mal de brigands. Et puis, les animaux qui étaient là, notamment les loups. Alors, est-ce que t'as rencontré un de ces trois dangers sur ton chemin ?
Alors, c'est toutes les limites, tu te doutes bien, de cette reconstitution. C'est que nous sommes évidemment au XXIe siècle. Pas de brigands qui t'attendent dans la forêt. Il y a des ponts qui existent, même si moi, du coup, j'ai traversé certaines rivières à gué, parce que s'il n'y avait pas un pont du XIIIe, je traversais à gué quand même. Je n'empruntais pas le pont.
Ah oui.
Donc, c'était super, une belle expérience. Mais moi, je sais nager et donc je n'avais pas cette crainte de la noyade. Et puis il y avait cette peur du loup. Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé la vivre, si tu préfères. Alors de là à dire que j'aurais aimé être attaqué par des loups, je ne vais pas aller jusque-là. Mais en tout cas, j'aurais aimé vivre cette crainte-là. Et figure-toi que j'ai eu un petit peu mon attaque de loup, puisque dans les Cévennes, pas très loin du Mont-Aigoual, je me suis fait attaquer par 2 chiens de chasse. Pourtant, c'est pas courant, ils attaquent en général jamais, mais qui avaient quitté leur meute. Et je sais pas là pourquoi, peut-être parce que j'en avais envie, mais ils sont venus m'attaquer. Et du coup, j'ai dû me défendre avec mon bâton de bourdon et ma pointe. Et c'est une rencontre que finalement, j'ai trouvée bizarrement très agréable et que j'attendais avec impatience.
Le parcours continue, on passera par le cirque de Navacelles, Saint-Maurice de Navacelles, le massif de la Serranne, et puis l'arrivée se fera sur Saint-Guilhem le désert. On est non loin de Montpellier, enfin je dis non loin quand même, à pied c'est quelques bornes, hein. On va pas se mentir.
Oui, on est à mon avis encore à peu près deux jours de Montpellier et de la mer, on va dire, tu vois. Mais en tout cas, ce qui est magnifique, c'est qu'au moment où tu passes, il y a un col qui se trouve à 1h30 de Montpellier. Quand tu passes ce col, tu vois la mer pour la première fois. Mmh. Et ça, encore une fois, quand tu te plonges dans ce personnage, Guillaume Coutel, qui n'a rien vu d'autre de sa vie, qui découvre la mer... Mais le choc émotionnel, encore une fois, comment se dire, mais non, je vais pousser deux jours de plus et je vais aller la voir, cette mer, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, déjà, il a l'étape de Saint-Guilhem. Et quand tu arrives sur Saint-Guilhem, tu as un cirque calcaire qui est majestueux, qui est incroyable. Et puis là, tu domines de haut ce village et tu as cette belle descente sinueuse qui te permet d'arriver enfin à l'abbaye de Gélonne.
Est-ce que le personnage que tu as campé pendant quelques jours, hein, du coup, pour ce pèlerinage, est-ce que tu l'as depuis quitté ou est-ce qu'il continue à t'accompagner dans ton quotidien, Willy ?
Alors, c'est super sympa que tu poses cette question. Je vais te dire pourquoi, parce que j'ai travaillé pendant 4 ans sur ce projet et Guillaume Coutel était tellement présent dans mon esprit qu'à un moment donné, j'ai dû lui demander de partir. Parce qu'au niveau de mon couple, il commençait à prendre trop de place. Donc, j'ai fait un break, 1 mois et demi, 2 mois avant de partir, j'ai plus du tout touché au projet du voyageur de l'histoire. Voilà, et j'ai dit non, maintenant tu me fiches un peu la paix. Là, malheureusement, il est obligé de revenir un petit peu parce que je suis en train d'écrire le livre.
Les personnes justement de ton entourage, elles t'ont toujours compris quand tu as fait part de l'envie de ce projet et quand tu es réellement parti sur ce pèlerinage ?
Oui, j'ai la chance d'avoir une femme qui a une curiosité culturelle qui est très grande et qui a une très belle intelligence émotionnelle et donc qui est très impliquée dans ce que je fais, qui est très à l'écoute et qui est même conseillère, très bonne conseillère. Donc non, là-dessus, j'avais un super soutien.
Un livre qui est donc en cours d'écriture autour de cette expérience. Quand est-ce qu'il va sortir, ce livre ?
Probablement pour la fin de l'année ou début de l'année 2026.
Il y a également donc ce photo-reportage. Là aussi, on peut le voir quand et comment ?
Alors, ce photo-reportage va sortir normalement début avril dans le magazine, dans le journal Embarquement. Mmh. Et en fait, après, il y a plusieurs magazines, je crois que normalement il y a déjà 5 magazines qui ont acheté le photoreportage et donc on va pouvoir le découvrir un peu au fil de l'année, donc là au printemps et puis après beaucoup à l'automne puisque comme c'est un voyage hivernal ça va jouer de la saisonnalité, donc automne-hiver on retrouvera le reportage dans les tout bons magazines je pense.
Et puis il y a également des documentaires qui ont été tournés à l'occasion de ce pèlerinage où tu revenais sur l'époque médiévale. On a notamment un immersif 360 degrés, c'est quoi ?
Oui, alors j'ai pris le parti que de tourner en parallèle de tout ça, ce fameux 360 degrés, c'est-à-dire qu'il y avait deux réalisateurs qui venaient, et là c'est plutôt un docu-fiction. Autant le tournage du documentaire 52 minutes qui est destiné au festival d'aventure et à la télévision, lui il retrace vraiment l'aventure en elle-même, alors que le 360 c'est un docu-fiction, et on se base sur cette expérience pour plonger dans la vie du pèlerin. Et là ce qui est génial, c'est qu'avec un casque de réalité virtuelle que tu remets sur la tête, avec un son ambisonique, tu vas pouvoir voyager à 360 degrés avec moi.
Et là, ça sera dans quel coin ? Où est-ce qu'on pourra venir voir ce 360 degrés ?
Alors, il sera disponible dans les festivals dès que, du coup, le documentaire sera diffusé, mais aussi dans des espaces culturels, des médiathèques, des musées et notamment la Cité de l'Histoire de Paris-La Défense à partir de 2026.
Et c'est un projet qui a été parrainé par la Société des Explorateurs Français, avec donc ce soutien de la Cité de l'Histoire de Paris-La Défense. Willy, merci infiniment d'être venu
merci
nous raconter
beaucoup,
cette
Florent.
Aventure. Et puis, on te retrouve sur les réseaux sociaux. À très bientôt.
À très bientôt, merci.
Et merci à vous de nous avoir suivis. C'était Les Aventuriers. Vous aussi, vous êtes une aventurière ou un aventurier. Vous souhaitez venir nous raconter ici à ce micro votre aventure. N'hésitez pas, on vous attend. contact@lafabriqueaudio.com. Vous aimez ce podcast, vous souhaitez le soutenir. Tout simplement, vous nous laissez des petits messages sur l'application Spotify. Et puis, les étoiles qui font du bien et qui permettent de grimper dans le référencement des podcasts partout en France. Merci et à très vite, dans un mois. Salut.
Les aventuriers.
un podcast de La Fabrique Audio en partenariat avec TV5Monde. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site Voyage de TV5Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts, lafabriqueaudio.com. Vous avez une aventure à nous proposer ? Une destination à nous faire découvrir ? Contact @lafabriqueaudio.com.
Lafabriqueaudio.com.